C'est comme ça que ça a commencé. Dis donc, t'as de la famille en province? Allons l'embrasser.
Si vous voyez pas la valeur de ce qui est là, vous êtes pas des clients, les mecs.
Oh, dans le fond, y'a pas de quoi pleurer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3, Radio Campus qui met cette année en place le mois de la radio des écoles en partenariat avec plusieurs établissements des quartiers de l'Argonne et de la Source à Orléans dans le cadre d'un projet Cité éducative. Nous allons donc parler éducation aux médias et à l'information en milieu scolaire avec plusieurs invités. Il y a Monsieur Vanier, il est directeur de l'école spécialisée élémentaire René Guicadou, école qui comporte une unité locale d'inclusion scolaire, à savoir les classes Ulysse. Il y a également Monsieur Kervella, principal au collège Montesquieu, et il viendra nous parler des projets en relation, en lien avec l'éducation aux médias et à l'information dans son établissement. Et Valérie Martin, professeur documentaliste au collège Jean Rostand. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
À vous d'avoir accepté cette invitation. On a souhaité mettre en place cette émission afin de mieux faire comprendre à nos auditeurs, auditrices, les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information en milieu scolaire auprès des élèves depuis la primaire jusqu'au collège. Il y a plusieurs objectifs. J'ai dans ce cadre rencontré Madame Prévost-Sorbe, Karen Prévost-Sorbe, donc responsable du CLEMI sur l'Académie d'Orléans-Tours, qui nous a expliqué non seulement quelles étaient les missions du CLEMI, le centre de liaison et d'enseignement aux médias et à l'information. Je parle sous le contrôle de Valérie Martin, hein, c'est
oui,
bien
tout
ça.
Tout à fait.
Voilà. Au niveau du rectorat, le CLEMI, qui, je vais vous donner une petite information d'actualité, a signé une convention tout récemment avec l'ARCOM, donc l'agence, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, une convention destinée à renforcer les coopérations entre le ministère et le régulateur dans le domaine de l'éducation aux médias, à l'information et, ça vient de sortir, à la citoyenneté numérique. Nous nous interrogerons un peu plus tard dans cette émission sur la place des écrans et donc du numérique dans nos vies, dans celles des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes, et aussi l'influence qu'ils peuvent avoir sur le développement psychomoteur, psychosocial des enfants et des adultes. Mais avant cela, afin de mieux vous faire comprendre ce projet de Radio des Écoles donc, qui va se dérouler tout au long du mois de mars sur Radio Campus Orléans, donc de 15h à 16h du lundi au vendredi dans votre moulin à parole, cette action qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école. Alors, qu'est-ce que le CLEMI? Qu'est-ce que la semaine de la presse et des médias à l'école? Eh bien, je vous propose d'écouter cette interview de Karen Prévost-Sorbe et on se retrouve juste après.
Alors, je suis Karen Prévost-Sorbe, je suis la coordonnatrice académique du CLEMI. Le CLEMI, c'est le Centre d'éducation aux médias et à l'information. Et je suis également la référente académique en éducation aux médias et à l'information pour la région académique Centre-Val de Loire, Académie d'Orléans-Tours.
Quelles sont les missions du CLEMI?
Alors, le CLEMI existe déjà depuis 1983. On va fêter cette année, au mois d'avril, le 3 avril, les 40 ans du CLEMI. Le CLEMI est l'opérateur de l'éducation aux médias en France, dans le système éducatif français. Il est chargé de développer l'éducation aux médias et à l'information sur l'ensemble des territoires, à la fois sur le premier et le second degré. Et la mission phare du CLEMI, c'est la formation de tous les personnels de l'éducation nationale afin de renforcer cette enseignement transversal au sein des écoles, des collèges et des lycées.
Quels sont les personnels concernés?
Alors, tous les personnels sont concernés aujourd'hui par l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, être éduqué correctement aux médias et à l'information, c'est une nécessité. Et je le rappelle, hein, un citoyen éclairé et responsable, c'est un citoyen qui sait s'informer correctement, notamment dans un contexte qui est aujourd'hui devenu numérique. Et savoir s'informer, c'est se forger une opinion. Et lorsqu'on peut se forger une opinion, on peut faire des choix éclairés en tant que citoyen. Donc l'éducation aux médias et à l'information, c'est un levier essentiel pour travailler sur l'éducation à la citoyenneté, et tous les acteurs de l'éducation nationale sont concernés par l'éducation aux médias et à l'information, tout simplement parce qu'on travaille sur l'éducation à la citoyenneté. Donc le CLEMI intervient aussi bien auprès des professeurs des écoles, des professeurs de collège, lycée, mais on forme également les chefs d'établissement, les infirmières scolaires, les assistantes sociales. Tous les personnels sont concernés par l'EMI puisque c'est un levier de l'éducation à la citoyenneté aujourd'hui.
Alors, une fois les personnels formés, comment est-ce que les élèves sont à leur tour formés aux médias, à la pratique des médias, à la compréhension du fonctionnement des médias ?
Alors déjà, peut-être rappeler que l'EMI en France n'est pas une discipline à part entière, mais c'est un enseignement transversal qui doit être porté par tous les enseignements. Donc déjà, l'éducation aux médias et à l'information figure dans les programmes d'enseignement, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc déjà, les enseignants portent l'éducation aux médias et à l'information dans leur programme. Je vais parler d'une discipline que je connais bien, c'est l'histoire-géographie, puisque dans une vie passée, j'étais professeure d'histoire-géographie EMC, enseignement morale et civique, et on a des temps prévus dans nos programmes d'enseignement pour travailler en éducation aux médias et à l'information. C'est le cas aussi en lettres, hein. Je vais prendre un exemple concret, par exemple dans le programme de 4e en lettres. Il y a une thématique qui s'intitule « Informer, s'informer, désinformer ». Donc on voit bien que l'éducation aux médias et à l'information figure dans les programmes déjà d'enseignement. Ensuite, il y a des actions éducatives, pédagogiques, plus ponctuelles, qui sont portées par les enseignants, les CPE, comme par exemple la semaine de la presse et des médias dans l'école qui aura lieu fin mars cette année. Voilà.
Et dont le thème sera ?
C'est un nouveau thème qui a été décidé, qui est l'information sur tous les fronts. C'est une thématique qui fait écho à la guerre en Ukraine, qui dure depuis maintenant presque un an. Alors, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est une action éducative qui est inscrite au calendrier de toutes les actions éducatives portées par le ministère. Les écoles et les établissements scolaires ont la possibilité de s'inscrire, c'est sur la base du volontariat à cette action éducative. Juste pour indication, dans l'Académie d'Orléans-Tours, l'année dernière, on a plus de 800 écoles et établissements scolaires qui se sont inscrits à cet événement, avec une forte augmentation notamment dans le premier degré. Et durant cette semaine, c'est une semaine assez riche, puisque c'est une semaine qui est organisée avec des partenaires, des professionnels des médias et de l'information. Et durant cette semaine, il y a des rencontres, il y a des ateliers de pratiques médiatiques, il y a aussi des ateliers mis en place par les enseignants documentalistes au sein des collèges et lycées, il y a des kiosques qui sont créés, il y a des activités plus ciblées sur la radio, la télévision, la presse écrite. C'est un moment où l'école rencontre le monde des journalistes et des médias.
On peut revenir sur cette création d'une cellule académique en janvier 2022. Quels sont ses objectifs ?
Oui, alors en janvier 2022 a été publiée une circulaire qui a pour objectif de généraliser l'éducation aux médias et à l'information sur l'ensemble des académies. Dans cette circulaire est noté qu'un référent académique EMI doit être nommé dans chaque académie par le recteur. Donc moi, j'ai la chance d'être cette référente académique EMI donc depuis janvier 2022. J'ai été nommée par la rectrice Katia Béguin et à la suite de cette nomination, j'ai constitué une cellule académique EMI. Aujourd'hui, cette cellule est composée de 24 membres, des membres qui viennent à la fois du premier et du second degré. Il y a des inspecteurs du premier degré, des inspecteurs du second degré. Il y a également la directrice de l'école académique de la formation continue, puisque la formation en éducation aux médias et à l'information, c'est un axe fort de cette cellule académique EMI. Et l'idée, c'est de mettre en place une véritable politique académique en EMI sur l'ensemble de l'académie d'Orléans-Tours. Voilà.
Vous travaillez avec plusieurs partenaires. On peut citer la Maison de la Radio, l'École publique de journalisme de Tours. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, de ce projet qui se fait au Collège Montesquieu, le projet PodClass ?
Alors oui, alors pour faire de l'éducation aux médias et à l'information, il est essentiel de travailler avec des partenaires, des professionnels des médias et de l'information. Vous avez cité là Radio France, mais je tiens à préciser aussi qu'on a la chance dans l'Académie d'Orléans-Tours de pouvoir aussi compter sur des médias associatifs comme le vôtre, comme Radio Campus. Et on peut compter aussi sur des médias régionaux comme le Berry Républicain, la République du Centre, l'Éco-Républicain qui interviennent énormément auprès des classes, France 3 Centre-Val de Loire, le réseau France Bleu. Donc c'est important aussi de citer les médias régionaux qui interviennent, parce que ça permet de mailler l'ensemble du territoire et de pouvoir proposer des rencontres, des projets sur un temps plus long aux établissements scolaires. Alors pour revenir sur le projet PodClass qui est développé avec la radio Le Move qui appartient au groupe la maison de la radio. Donc c'est un projet qui est national. Seule une dizaine d'établissements sont choisis chaque année pour développer un projet sur l'ensemble de l'année scolaire, pour une classe et pour travailler sur une thématique. Il se trouve que là, le projet concerne le collège Montesquieu, donc à Orléans. C'est un collège qui est déjà fortement engagé sur des actions d'éducation aux médias et à l'information. Cette année, le projet va bénéficier à une classe de 4e. Il est piloté par une professeure de lettres. Et l'idée, c'est sur une année scolaire, quelques mois, de travailler sur la production d'un podcast autour d'une thématique très importante dans notre société, à savoir une thématique liée aux enjeux du développement durable, liée aux ODD, aux objectifs de développement durable. Et à l'issue de l'année scolaire, les élèves de cette classe de 4e pourront présenter leur production radiophonique à la Maison de la Radio, visiter la Maison de la Radio. Et je trouve ça très bien qu'un établissement comme le Collège de Montesquieu puisse montrer son savoir-faire en éducation aux médias et à l'information, et surtout renforcer les compétences en EMI au sein de l'établissement avec un projet dynamisant et porteur. J'en profite juste pour remercier aussi l'implication des chefs d'établissement dans ce type de projet, et notamment là, M. Kervella, puisque c'est aussi grâce à leur dynamisme, à leur envie aussi de porter l'éducation aux médias et à l'information dans leur établissement, que ces projets peuvent se concrétiser pour les enseignants et les élèves.
Les enjeux sont énormes. Enfin, on le voit, donc vous avez su suivre aussi l'évolution des médias, comme le podcast, la création des podcasts. Il y a aussi l'apparition depuis une dizaine d'années des médias en ligne qui deviennent de plus en plus populaires. On ne peut pas écarter les problématiques liées aux réseaux sociaux qui ne sont pas des médias et qui pourtant apparaissent auprès d'une certaine jeunesse, des enfants et des jeunes, comme les vecteurs de l'information, alors que ce ne sont pas des médias. Quels sont les projets à venir de l'EMI justement pour peut-être éduquer les jeunes aux réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux ne sont pas des médias, mais sont perçus comme tels par les jeunes. Je ne sais pas si vous saisissez le sens de ma question. Alors, comment rétablir un peu de bon sens dans les pratiques d'information?
Oui, je vais essayer de répondre à votre question. Alors, dire déjà que l'éducation aux médias et à l'information, aujourd'hui, est directement confrontée à des enjeux de société, en fait. Hein. Vous n'en avez pas parlé, mais je pense que derrière votre question, il y a aussi la question de la désinformation, de la manipulation de l'information. Il y a aussi la question de la qualité de l'information à laquelle on peut accéder en tant que jeune, mais aussi en tant qu'adulte et citoyen. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une véritable nécessité d'équiper, d'outiller les jeunes qu'on a dans nos établissements scolaires afin qu'ils puissent vraiment naviguer dans cette jungle informationnelle. On peut véritablement parler de jungle informationnelle, car maintenant, comme vous l'avez souligné, avec les réseaux sociaux, tout à chacun, on peut produire, diffuser de l'information, sauf que je pense qu'il est important de rappeler aux jeunes que l'information, c'est un bien, on va dire, très important dans notre société, c'est un bien commun, c'est un bien qui est fabriqué normalement par des professionnels, et que derrière la construction, la diffusion de l'information, il y a de réelles compétences professionnelles et que tout à chacun, on ne peut pas devenir s'improviser journaliste. Il y a quand même des règles à connaître et je pense que c'est en ça que l'éducation aux médias, l'information aujourd'hui aussi est très importante. Il y a même une urgence à éduquer correctement nos élèves à l'information dans un contexte numérique, car ils n'ont pas forcément toujours conscience de qui sont les producteurs d'informations et quelles sont les intentions cachées derrière certains producteurs d'informations. Donc, je pense qu'il faut revenir aujourd'hui aux fondamentaux de l'éducation aux médias à l'information, c'est-à-dire bien redéfinir ce qu'est une information, ce que sont les sources de l'information, redéfinir aussi qui produit l'information aujourd'hui, peut-être faciliter, renforcer les rencontres avec les journalistes et les médias. Parce que parfois, il y a une confiance qui peut être rompue entre certains jeunes, certains médias. Et je pense que quand on apprend à se connaître, quand on apprend à mieux connaître comment l'autre travaille, ça facilite les choses. Et moi, je le vois bien dans tous les projets d'éducation aux médias et à l'information, dès lors qu'on est sur vraiment une pratique médiatique, dès lors qu'il y a un accompagnement qui est fait par des professionnels des médias, par des médias associatifs ou des médias vraiment professionnels, eh bien, on voit bien que le travail qui est fait a des répercussions très positives. Déjà, les jeunes prennent conscience de la manière dont on fabrique l'information. Ils comprennent aussi que cela relève aussi de tâches très complexes et que une information de qualité, c'est une information travaillée et surtout aussi, je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui aussi, une information de qualité, c'est une information aussi qui a un coût.
Oui.
Et je pense que c'est bien aussi d'éveiller, de sensibiliser nos jeunes à l'économie des médias. Et ça fait écho aussi à la problématique aussi autour des réseaux sociaux aussi, hein, et aux enjeux qu'il y a aujourd'hui aussi, parce que les réseaux sociaux peuvent aussi parfois être des agrégateurs d'informations. Et les élèves n'ont pas conscience de tous les enjeux qui se cachent derrière cela. Même si il y a un point que je nuancerai, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des médias qui s'emparent des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser leur contenu. Et on voit bien, hein, les formats informationnels ont beaucoup changé ces dernières années. Ils se sont adaptés au numérique, ils se sont adaptés aux lecteurs, aux récepteurs. Et on a aussi des médias aujourd'hui qui se sont emparés des réseaux sociaux et qui utilisent les réseaux sociaux comme de véritables médias d'information. Voilà. Mais après, c'est à nous d'éduquer les jeunes pour qu'ils arrivent à distinguer ce qui relève de la vraie information de la fausse information. Voilà.
Alors, vous l'avez dit, s'informer, ça a un coût. Effectivement, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites par l'Éducation nationale pour favoriser l'accès à l'information auprès des enfants et des jeunes, notamment, par exemple, dont on peut penser au centre de documentation? Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à de la presse ou alors à des médias en ligne de manière gratuite pour les élèves de primaire, de collège?
Alors, oui. Alors, ce travail d'accès, enfin, pour accéder aux médias, c'est un travail qui est surtout mis en place, favorisé par les enseignants documentalistes. Hein. Ne l'oublions pas, les enseignants documentalistes sont les maîtres d'œuvre de l'EMI au sein des collèges et des lycées. Pendant la semaine de la presse et des médias dans l'école, les écoles du premier degré qui s'inscrivent à la semaine de la presse et des médias dans l'école ont accès à des titres. Donc, ils reçoivent des titres papier, de la presse magazine. Mais ce que je tiens à dire aussi, et ce qui me semble aussi très important aujourd'hui, c'est que le ministère de la Culture a mis en place aussi le pass culture, notamment avec une part collective. Et dans la part collective, aujourd'hui, il y a la possibilité de réaliser des visites médias, puisqu'on a des médias qui proposent des offres dans la part collective du pass culture. Et ça, c'est ouvert aux collégiens, aux lycéens. Et il y a aussi des journalistes professionnels qui proposent des ateliers d'éducation aux médias et à l'information à travers ce pass culture. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont mises en place pour favoriser l'accès à l'information, favoriser l'accès à certains médias. Donc, tout ce qui nous reste à faire, je sais que ça peut paraître un petit peu futile de le dire comme ça, c'est de renforcer la connaissance de toute l'offre qui existe sur notre territoire et de faire en sorte aussi que cette offre, elle bénéficie à tous les territoires de l'Académie d'Orléans-Tours. Et surtout, on est quand même dans une académie, il y a quand même des espaces ruraux. Et moi, j'ai quand même un regard sur toutes ces écoles, ces collèges et lycées qui sont situés dans des espaces un peu enclavés. Et on essaie de faire en sorte, dans l'Académie d'Orléans-Tours aussi, de faciliter les rencontres avec des médias, avec des journalistes dans ces espaces-là. C'est-à-dire, il faut impérativement ne pas favoriser que les espaces urbains. Il faut aussi regarder du côté des espaces ruraux. Il y a de très, très beaux projets d'éducation aux médias dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées situés en zone rurale. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer cette ouverture aux médias, à l'information sur l'ensemble du territoire.
Une dernière question. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que s'informer avait un coût et ça demande également du temps.
Oui. Oui, ça demande du temps de s'informer. S'informer, c'est ce qu'on explique régulièrement en action de formation, notamment auprès des enseignants. C'est que s'informer, c'est une tâche complexe pour un adolescent. On va rester sur les adolescents. Et que y a une partie des adolescents, malheureusement, qui n'est pas éduquée, acculturée à l'information dans son univers familial. Donc, l'école a un rôle très important à jouer. Justement, d'équité, hein, d'égalité entre les élèves. C'est-à-dire que l'école doit prendre en compte aussi le fait que certains élèves ont besoin, plus que d'autres, justement, d'avoir ce contact avec les médias, puisqu'à la maison, il n'y a pas d'éducation à l'information. Donc, ça prend du temps, éduquer à l'information. Ça prend du temps que de donner de bonnes pratiques aux élèves pour se tenir informés. Donc, c'est un travail qui s'inscrit sur un temps long, qu'on peut commencer dès l'école primaire, qu'on travaille de manière progressive et spiralaire en complexifiant les choses au fur et à mesure de la scolarité de l'élève. Et surtout, ce qui me semble important aussi, c'est de ne pas perdre de vue qu'on a quand même des jeunes qui ont des pratiques médiatiques et informationnelles et ils n'ont pas tous des pratiques problématiques. Certains ont même des pratiques plutôt pertinente. Donc, si on devait retenir quelque chose concernant les jeunes, c'est essayons d'adopter une posture ouverte et positive par rapport à leurs pratiques. Essayons de légitimer leurs pratiques parce que certains jeunes ont des pratiques particulièrement pertinentes. Et j'ai envie de dire que parfois, ce sont des adultes qui dysfonctionnent. Et il est important peut-être de rappeler que, au niveau notamment de la diffusion de fausses informations, ce sont plutôt les seniors qui diffusent 7 fois plus de fausses informations que nos jeunes qu'on a en collège ou en lycée. Voilà.
Voilà, je suis toujours en studio donc avec mes invités, je le rappelle, M. Vanier, M. Kervella et Mme Valérie Martin. On va peut-être commencer par le début, puisqu'on va parler d'éducation aux médias et à l'information. Qu'est-ce qu'une information ? C'est une question que vous posez, vous, Mme Martin, à vos élèves, dans le cadre de cette classe, dans cette option média.
Oui, tout à fait. Donc, au collège Jean Rostand, on a mis en place une option média. J'ai peut-être déjà expliqué, parce que si on parle de commencer, je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'une option média. Hein. Ça fait un petit moment qu'on travaille, nous, autour de l'éducation aux médias, à l'information, comme pas mal d'établissements, et ceux qui se trouvent autour de la table également. Et on avait une forme de frustration quand même de travailler sur de choses assez ponctuelles. Et on avait envie d'un travail de fond et qui soit prolongé. Donc on a mis en place cette option de manière, on va dire, un petit peu expérimentale, qui a débuté cette année. C'est une option qui concerne donc des élèves volontaires de 5e cette année, une vingtaine d'élèves, et qui se poursuit en 4e. L'idéal, hein, serait évidemment qu'on ait comme ça des cohortes qui se suivent. Et ce qu'on aimerait, c'est que aussi les élèves qui soient en deuxième année d'option puissent faire ce qu'on pourrait appeler la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes soient acteurs et actrices de la formation d'éducation aux médias auprès des plus jeunes. C'est un petit peu l'idée. Cette option, elle se décline sous forme de 2 heures tous les 15 jours. Et puis, on commence, voilà, c'est comme ce que vous disiez, sur qu'est-ce que c'est qu'une information. Parce qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont bombardés d'informations. Quelque part, on n'est pas en manque d'informations. On est même avec des informations qui arrivent de partout, de plein de canaux différents. Et on a des jeunes qui sont en difficulté, qui peinent à différencier, par exemple, une information d'une publicité, d'une information commerciale. Pour certains, ce n'est pas évident. Puisque, par exemple, si on regarde sur les réseaux sociaux, tout va se mélanger. Une information, Hein, et puis une publicité qui ne ressemble pas vraiment à une publicité, qui a l'air de s'adresser directement à nous. Donc une information, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est déjà un fait qui va être vérifié et puis qui va concerner le plus grand nombre et qui apporte quelque chose de nouveau qu'on ne sait pas déjà. Donc il y a ce rapport à l'actualité un petit peu immédiate ou en tout cas très récente.
Alors, merci pour ces précisions. Le travail de journaliste est en quelque sorte le travail d'un historien du présent. On ne peut pas non plus isoler l'information dans le temps, dans le temps présent. Il faut la contextualiser aussi.
Bien sûr, mais ça fait partie après aussi, on va tout avoir le travail de circuit de l'information, et puis il faut la nourrir, et évidemment il faut la mettre dans un contexte, ça va de soi. Moi je dirais que ça fait partie du travail de recherche info-documentaire aussi, du travail journalistique, j'imagine.
Et la situer dans l'espace aussi, cette information. C'est-à-dire, pourquoi serions-nous concernés par un tsunami qui a eu lieu au Japon il y a 10 ans à l'autre bout de la planète ?
Oui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les élèves, naturellement, vont être un petit peu comme certains de nos médias, agir avec la loi de la proximité. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir concernés par quelque chose qui va les toucher dans leur quartier. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout d'appétence pour des informations qui seraient internationales, par exemple avec le conflit en Ukraine, hein, par exemple, c'est quelque chose qui les touche, qui peut aussi les angoisser, en tout cas nourrir des questions. Mais ils ont peut-être du mal à les décrypter. Donc évidemment, pour moi, l'éducation aux médias, mais je ne pense pas que pour moi, hein, c'est aussi un des objectifs, c'est à un moment donné avoir cet aspect critique et donner des clés de décryptage et de compréhension du monde qui nous entoure. Le monde autour de soi, mais évidemment le monde plus largement. Et quand on fait l'éducation aux médias, on s'intéresse, nous c'est un petit rituel par exemple qu'on a dans notre option, on demande aux élèves de nous présenter une information qu'ils ont pu entendre, lire, écouter dans un des différents médias et de la partager. Et on essaye ensemble, au-delà des 5 W, hein, parce que j'ai bien compris que on faisait référence au qui, quoi.
Alors non, ah non, pas du tout.
Non, au qui, quand, quoi,
pourquoi ? Non, pas du tout. Je faisais référence à l'histoire de l'information qui n'est pas la même aujourd'hui en 2023 qu'il y a 2 siècles en arrière, où déjà la maîtrise de la lecture et de l'écriture n'était pas généralisée, par exemple en France. Hein, beaucoup de personnes ne savaient pas lire ni écrire. Et les moyens de transmission de l'information n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que notre rapport à l'information a évolué. On ne peut pas non plus, j'allais dire, le séparer de notre rapport au niveau de langage. Et c'est compliqué de comprendre une information aussi. Si on veut la décrire justement d'un point de vue historique, géographique, il faut mobiliser des connaissances. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire l'éducation aux médias en milieu scolaire, parce que ça permet de mieux comprendre le monde très complexe dans lequel les enfants vivent. Et les jeunes aussi, et les adultes, hein, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait cette émission, c'est pour mettre l'accent sur les enjeux qu'il y a derrière l'éducation à l'information. Je ne sais pas, des réactions peut-être, M. Kervella, M. Vanier, à ce que vient de dire Mme Martin concernant l'éducation aux médias. Oui, pardon, excusez-moi.
Moi, je veux bien réagir. Donc, c'est vrai que par rapport à l'éducation aux médias, au niveau des écoles, alors que moi, je vais parler d'abord pour le primaire, on a maintenant donc l'EMI, hein, donc l'éducation aux médias et à l'information, qui se sont imposés. Alors, certes, au-delà du primaire, hein, puisque ça va jusqu'au lycée, mais à travers les programmes, on a cette ambition maintenant, dorénavant, de faire travailler et de développer l'esprit critique, hein, par rapport aussi à tout ce qui va être information. Et c'est ça aussi l'objectif, d'en faire ce qu'on appelle des citoyens éclairés, hein, qui seront en capacité, effectivement, de recevoir l'information, l'analyser, la comprendre, et puis ensuite agir en tant que citoyen. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui doit bien évidemment commencer dès la petite section de maternelle. Alors certes, pas avec les mêmes ambitions, hein, que... on peut l'avoir quand on est professeur documentaliste, hein, mais c'est évident que ce travail, il commence dès les premières années, en fait.
Alors, on reviendra un peu plus tard justement sur le travail des professeurs documentalistes qui s'ils sont professeurs documentalistes et puis ont souvent en charge l'éducation aux médias et à l'information, n'ont pas forcément de classe comme leurs collègues professeurs d'histoire, professeurs de français. C'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure en revenant sur ce projet de option média. Monsieur Kervella, les enjeux de l'éducation au collège.
Alors,
de l'éducation aux médias au collège, pardon.
Lorsque l'élève arrive au collège, souvent, il va arriver avec un téléphone portable, hein, puisque la majorité des élèves en ont un maintenant à l'entrée au collège et donc vont avoir accès à une information beaucoup plus prolifique et beaucoup plus complexe. Voilà. Et ça va changer un petit peu la donne. Donc le travail de l'éducation nationale est primordial et ça passe d'abord par la compréhension de la langue. À la fois dans l'explicite, mais aussi dans l'implicite, puisque derrière une information se cache souvent beaucoup d'implicites. D'où le travail en collaboration avec les professeurs documentalistes, le rôle aussi des enseignants d'une manière générale et des enseignants de français tout particulièrement, et d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, qui vont faire ce travail nécessaire d'éducation. Parce que sinon, l'élève qui est confronté seul à l'information avec son smartphone va être déboussolé et ne pourra pas appréhender la complexité de l'information qu'il subit. Donc il y a un enjeu de société qui est considérable.
Une fois que, par exemple, dans le cadre de l'option média, vous avez expliqué donc aux élèves, c'est quoi, enfin que vous avez répondu à cette question avec eux, c'est quoi une information. Comment poursuivez-vous justement ce travail autour de l'éducation aux médias?
On s'axe quand même beaucoup sur le travail journalistique, parce que comme je l'ai dit. Quand on demande, on parle aussi des pratiques informationnelles des élèves, parce que c'est toujours intéressant, leur demander s'ils s'informent. En cinquième, pas tellement, quand même, de même. Il y a encore des familles où on regarde le journal télévisé du soir. Donc là, je parle des élèves qu'on interroge. Et donc, on leur demande d'où vient l'information. Où est-ce qu'ils ont eu l'information ? Souvent, ils nous disent, je l'ai eu sur TikTok, par exemple, ou sur Insta. On leur dit, mais qui a produit cette information ? Comment est-ce qu'elle est parvenue ? Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait et la réception ? Donc, on va travailler tout le circuit de l'information. Ce faisant, on va venir interroger les sources. Donc, on est quand même dans cette première approche. On apporte des connaissances, on travaille des compétences, mais il y a aussi un certain nombre de connaissances. On va aborder aussi le travail du journaliste. Mais je crois que c'est dans l'éducation, c'est ce qu'on a pu entendre, j'imagine, auprès du Clémy. Mais c'est éduquer aux médias, mais c'est éduquer aussi par les médias. Et je pense que la création de contenu médiatique, elle fait ses preuves, nous on l'a expérimenté depuis un moment, et c'est comment est-ce qu'on passe de ces savoirs, de ce qu'on peut partager ensemble, au concret en faisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on devient créateur et créatrice de contenu médiatique, on va se poser la question de quelles sont mes sources. Où est-ce que je vais trouver l'information? Comment est-ce que je vais la valider? Comment est-ce que je vais la mettre en forme? Quel angle je vais choisir? À partir de ce moment-là, on a aussi un autre regard critique. On l'a dit, l'objectif, c'est quand même de développer cet esprit critique. Et quand on parle d'angle, effectivement, de savoir ce qui va définir une information et quel angle a été choisi, que ce soit par le journaliste ou par exemple, parce qu'on a juste abordé le sujet, mais l'importance de l'image auprès de nos élèves. Quel cadrage de la photo? Qu'est-ce qu'on a choisi de montrer? Voilà, le rapport entre le texte et l'image, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très, très importantes. Dans un deuxième temps, on va tenter avec eux, c'est sous forme d'atelier quand même. Donc, c'est-à-dire, on est vraiment dans une réflexion collective et commune à savoir d'où vient l'information, parce qu'il n'est pas toujours évident pour les élèves de savoir quel est le canal ou le support, en tout cas, qui a produit l'information, qui est producteur d'information. Les élèves s'informent énormément sur les réseaux sociaux, quand ils s'informent en tout cas, et ils peuvent penser que par exemple un réseau social type Instagram serait producteur d'informations. Donc c'est important pour nous de les amener à réfléchir là d'où vient l'information. Donc on va aborder la notion de circuit de l'information, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le fait et la publication et la réception de cette information. Ensuite, on travaille sur les différents types de médias et leurs spécificités. Et puis, on part à la rencontre aussi des journalistes, hein, de ceux qui font l'information. Et donc, on va rencontrer les journalistes. Et je voulais insister sur le fait que éduquer aux médias, c'est une chose, mais éduquer par les médias, c'est aussi une finalité qui nous semble très, très importante, et de créer du contenu médiatique, que les élèves soient vraiment acteurs de cette création médiatique, apporte vraiment tout l'intérêt du projet. C'est-à-dire que très concrètement, ils vont venir interroger, ils vont vivre le circuit de l'information, de la production, de la question des sources, de la vérification, de la mise en mots et de comment on va publier, médiatiser cette information. Donc tout ce travail, nous, on y accorde beaucoup d'importance et on travaille aussi pour cela avec des partenaires parce que c'est toujours très riche aussi de pouvoir s'entourer des professionnels qui travaillent dans le champ de l'éducation aux médias, à l'information et des journalistes.
Donc des partenaires locaux, on peut penser à la République du Centre.
Donc là, on travaille avec Radio Campus Orléans, avec Zotelli, donc zone de télévision libre associée au 108, à l'association Le 108 à Orléans. Et puis, on travaille aussi cette année, mais pour un autre projet, avec l'association C'est comme à la radio, qui associe donc un certain nombre de journalistes qui partent à la rencontre des élèves pour animer des ateliers.
Apprendre par la pratique pour comprendre la complexité du métier de journaliste en milieu scolaire au collège. On pourrait aussi parler d'un autre exemple qui existe donc à l'école Cadou, l'école René-Guy Cadou, le Cadou Info, Monsieur Vanier.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un projet en fait qui s'est développé depuis 2018 dans mon établissement autour de la classe de CM2 de Monsieur Besançon et de mon collègue Monsieur Théré, qui ont donc créé ce journal et on rejoint un peu cette idée, voilà, que en devenant finalement journaliste même, les enfants vont comprendre finalement comment fonctionne un média et puis comment est-ce que on peut traiter, comprendre, analyser une information, la sourcer, voilà. Donc c'est tout cet aspect-là en fait qui est intéressant puisque je le redis, depuis la classe de CP jusqu'au CM2, ces enfants participent finalement à la construction de ce média. Alors chacun à son niveau, bien sûr, hein, avec les CP qui vont plutôt produire du média à travers leur enseignant en faisant des dictées à l'adulte. Et puis, petit à petit, ils vont développer des compétences. On est sur des compétences transversales. Donc, ça veut dire qu'ils vont commencer à produire de l'écrit, ils vont commencer à produire de l'image, ils vont commencer aussi à faire du dessin, des jeux, tout un tas d'éléments qui vont en fait alimenter le Cadou Info. Et donc, ce projet qui, voilà, aujourd'hui, quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur dans notre établissement, puisque récemment, l'année dernière, nous avons participé au concours Mediatix et donc le journal l'a remporté ce concours au niveau académique et puis on s'est retrouvé dans les 5 derniers journaux scolaires à être sélectionné au niveau national. Donc c'est un beau projet qui s'inscrit dorénavant dans le projet d'école de mon établissement. Et ce qui nous a permis aussi, finalement, de pallier à quelque chose qu'on avait perçu, mais qu'on a vraiment compris en le réalisant, c'est cette idée qu'en réseau d'éducation prioritaire, en REP, hein, puisque nous sommes en REP au niveau de mon établissement, on a finalement cette idée que le média papier n'est pas très, très présent au niveau des familles, au niveau de la maison des élèves. Et ce média papier, voilà, c'est quelque chose qu'on a réussi à créer avec eux. Ils ont compris ce que c'était. Et petit à petit, maintenant, ils s'intéressent aussi maintenant à ce média, hein, chose qu'ils ne faisaient pas beaucoup avant. Donc là, on a pris des abonnements pour l'école et puis on les emmène à la médiathèque où ils peuvent aussi emprunter ce type de média maintenant. Voilà. Et c'est quelque chose qui aussi nous a permis finalement d'inclure tous les élèves. Hein, c'est vrai qu'il y a à la fois l'aspect finalement production d'écrits, de textes, la production aussi d'images, mais on a aussi tous ces paramètres aussi dans la construction du média qui sont plutôt, on va dire, des éléments de pagination, des éléments aussi d'organisation d'une page, de choix, voilà, de taille d'articles. Donc tous ces éléments-là permettent aussi finalement à tous les élèves, quel que soit finalement leur compétence, de pouvoir s'inscrire dans ce type de projet.
La mise en forme, bien évidemment. La manipulation l'expérimentation du métier de journaliste pour comprendre le métier de journaliste, sa complexité, l'aspect chronophage, sur lequel on reviendra d'ailleurs peut-être tout à l'heure avec Madame Martin, mais on va faire un détour vers le collège, parce que ce qui se passe maintenant, depuis le temps que les élèves pratiquent les médias, que ce soit via Cadou Info ou encore la radio des écoles qui est installée depuis pas mal d'années à la source, c'est que d'abord ils commencent au primaire, et puis après on les retrouve, par exemple, au collège Montesquieu. Ça a été le cas. Ce matin encore, j'étais dans une classe de SECPA avec des jeunes que j'avais déjà eus, mais du temps où ils étaient en primaire. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, M. Kervella, nous parler d'un des nombreux projets que vous pouvez mener, vous, dans votre établissement, en lien avec l'éducation aux médias et à l'information au milieu scolaire ?
Oui. Alors, je vais vous parler tout d'abord du projet Podclass que nous menons avec la radio Le Move, qui fait partie du groupe France Inter et qui s'adresse plutôt à un public jeune. Le projet nous a été proposé par le Clémy d'Orléans, Madame Karen Prévost-Sorbe plus particulièrement. L'idée, c'est qu'une classe de quatrième, un enseignant, une enseignante en l'occurrence de lettres, et une journaliste de la radio Le Move mènent un projet donc sur l'année pour construire une émission de radio comme des professionnels. Et je reprends ce qui a été dit par Madame Martin, ce que vous venez de dire, c'est il faut que les élèves se mettent dans la peau d'un journaliste pour comprendre à quel point c'est énergétiquement coûteux de produire une émission journalistique qui soit la plus objective possible, sourcée. Et alors qu'il peut paraître dans la tête des jeunes qu'il est très très facile de produire une information avec un smartphone ou avec les outils modernes que nous avons à notre disposition. La rencontre aussi avec un vrai journaliste est importante, parce que ça stimule aussi l'empathie, le désir de création pour le coup, parce que vous, journalistes, à moins d'être comme nous le sommes ici en train d'enregistrer une radio, on ne les voit jamais. Et donc c'est important aussi cette rencontre-là, voilà. Et que les journalistes, ce ne sont pas des enseignants, mais ce sont des professionnels qui vont venir apporter leur expertise, guider les jeunes et les amener à produire un résultat qui soit final et de qualité, voilà. Donc ça, c'est un des projets. On a travaillé aussi avec l'association Fake Off cette année, qui est une association de journalistes, et plus particulièrement sur la création des fake news. Quels sont les mécanismes qui permettent la création d'une fake news? Comment les dépister, les comprendre pour pouvoir mieux les contrer? Voilà. Et ce projet a été mené donc par deux enseignantes, une enseignante de sciences et vie de la Terre, une enseignante d'histoire-géographie, enseignement moral et civique avec une classe de quatrième. Et puis enfin, on a le projet qu'on mène avec vous-même, Radio Campus, qui implique quatre classes cette année. Et là encore, vous allez apporter votre expertise pour emmener ces groupes d'élèves à créer donc une émission en les ayant formés au préalable. Qu'est-ce que c'est qu'un conducteur d'émission de radio? Comment on le produit? Quels sont les choix éditoriaux que nous avons à faire? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Et pourquoi? Voilà. Et tout ça, c'est important pour justement construire leur pensée critique et puis leur pensée de citoyen, tout simplement.
Afin qu'ils puissent aussi comprendre la complexité de l'information. Alors c'est vrai que dans le cadre de la radio des écoles, qui est de la radio pédagogique, de la radio scolaire, on aborde souvent des thèmes en lien avec les différentes matières, que ce soit l'histoire, le français, etc. Mais aussi souvent, il est question des centres d'intérêt des élèves, et ça serait en quelque sorte la ligne éditoriale de ces médias scolaires, que ce soit Cadou Info ou peut-être aussi je me rappelle d'un projet qu'on avait fait à l'Argonne où les jeunes témoignaient de leur regard sur leur quartier de l'Argonne, un regard d'ailleurs assez positif, bienveillant, assez contraire d'ailleurs à certains élus locaux, je me permets de le dire, tant pis, c'est comme ça, je pense à voix haute, beaucoup moins anxiogène en tout cas. Et c'est une parole, ce sont des voix que l'on n'entend pas souvent, celles des enfants et des jeunes, et qui pourtant n'en est pas moins intéressante, qui aussi est une source d'information. Voilà, comment est-ce que les jeunes voient le monde? On entend souvent, par exemple, des ministres parler de la jeunesse, mais on n'entend pas forcément la jeunesse parler d'elle-même ou même des ministres. Hein, voilà. Bon, il faut un accompagnement pour tout cela. Ce dont je voulais parler, c'était de cet aspect chronophage. Ça demande du temps, faire Cadou Info. Ça demande du temps, cette option média. D'autant plus que vous, en tant que professeur documentaliste, vous n'avez pas une classe. Vous le faites forcément en partenariat avec vos collègues. C'est bien ça ?
Oui, on a une expertise et ensuite on propose, on travaille avec les enseignants qui le souhaitent. Mais effectivement, ça peut être perçu comme des projets qui sont chronophages et qui vont peut-être prendre le pas sur les programmes scolaires. Alors même qu'ils font partie intégrante des programmes scolaires et que les compétences qu'on y développe sont évidemment essentielles pour nos élèves. Alors, ce ne sont pas des, entre guillemets, des savoirs savants. Et en tout cas, ça en met en œuvre. Mais des fois, ça peut être perçu comme ça. Pour autant, on a toujours des enseignants qui sont très partants. Parce qu'une fois qu'on a goûté à cette expérience, c'est vrai qu'on a envie d'y revenir. Hein. Monsieur Vanier en parlait. Il y a un côté aussi exaltant pour toute une équipe d'enseignants et d'enseignantes, je pense. Et on le voit aussi au collège Montesquieu. J'imagine, il y a une dynamique quand même. Et c'est vrai que ça met du sens dans les apprentissages des élèves.
Savoir communiquer, c'est important. Surtout aujourd'hui, enfin, on le comprend encore mieux, mais c'est important de savoir communiquer à ses pairs et donc de produire de l'information, de la formuler, de la mettre en forme.
Oui, ben ça fait partie.
C'est un
aussi
savoir
des,
à part entière.
Ça fait aussi partie des objectifs. Hein, c'est travailler aussi l'écriture. La radio a cela d'intéressant que quand même, on est dans une, on passe par l'écrit, ça c'est obligatoire et c'est ce que nous apprennent les journalistes qui interviennent aussi de la radio, qui interviennent, qui disent mais tout est écrit. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette parole, il n'y a pas de parole spontanée quand on est journaliste en radio. Et donc on le travaille. Mais je dirais peut-être une apparente simplicité dans l'écriture radiophonique, mais qui nous aide avec les élèves parce qu'on est sur une syntaxe assez concise, des phrases courtes. Pour nous, c'est quand même une très bonne entrée en matière.
Savoir communiquer, ça me fait penser à ce projet que vous pouvez faire au Collège Montesquieu dans le cadre donc du CESCE, les comités d'éducation à la santé, la citoyenneté et l'environnement, dans lequel les élèves bénéficient de formations aux compétences psychosociales.
Alors tout à fait, enfin, ce qui nous permettra peut-être de glisser progressivement aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux, hein, qui sont des médias à part entière, mais avec leurs propres spécificités, et qu'il nous apparaît important de pouvoir former nos élèves, hein, dès leur arrivée au collège, sur l'acquisition des compétences psychosociales. Donc compétences cognitives, compétences émotionnelles et compétences sociales, hein, qui permettent en fait aux élèves effectivement de pouvoir communiquer sereinement et efficacement avec les gens qui les entourent. Voilà. Et donc, pour pouvoir acquérir ces compétences communicationnelles, effectivement, et au-delà d'une émission de radio, dans la vie de tous les jours, avec les personnes avec lesquelles nous sommes en interaction, effectivement, ça nécessite en permanence de mobiliser ces compétences psychosociales, hein, qui ont été définies dans les années 90 par l'Organisation mondiale de la santé, hein, comme étant nécessaires au bien-être des individus. Voilà. Et il y a un plan interministériel qui est sorti cette année, 2022-2037, hein, qui vise à former la moitié d'une classe d'âge massivement à l'acquisition de ces compétences psychosociales qui apparaissent aux législateurs, hein, comme étant primordiales pour permettre à notre jeunesse, voilà, d'aller vers le bien-être et l'intelligence sociale. Hein. Nous sommes des êtres sociaux qui vivons en interaction. Et donc, ça nous paraît important comme fondation, finalement, à tout ce que l'on vient de dire là, d'acquérir ou de travailler tout du moins ces compétences-là qui, à nos yeux, sont le préambule à toute autre chose. Voilà. Donc les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, je rappelle que dans l'ensemble des établissements, hein, cette instance existe, mais que chaque établissement étant autonome, hein, il l'utilise en fonction des besoins, du projet d'établissement, etc. Dans le cadre de la cité éducative, hein, puisque le projet sur lequel vous travaillez est un projet cité éducative, là encore, voilà, l'acquisition des compétences psychosociales a été mise au cœur, hein, du futur projet, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer.
Et bon, c'est vrai qu'on est bientôt au terme de cette émission. On n'a pas pu faire l'impasse sur la place des entreprises de réseaux sociaux. Je tiens quand même à le préciser, au même titre que les médias qui ont souvent un modèle économique. Et donc, produire de l'information, ça coûte de l'argent, ça demande du temps, aussi bien pour celles et ceux qui la produisent que pour celles et ceux qui la consomment. Et l'avantage donc de ces médias scolaires, c'est qu'ils s'affranchissent de toute publicité. Enfin, la question du modèle économique est réglée puisqu'il s'agit du travail des élèves. Ce qui garantit d'ailleurs une certaine honnêteté aussi dans l'information, mais qui permet par ailleurs aussi de favoriser l'expression des jeunes, chose très importante aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des droits de l'enfant, le droit d'être écouté, le droit de diffuser de l'information. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. J'aurais évidemment beaucoup de questions à vous poser encore, forcément, sur les travaux que vous faites les uns les autres. Je vais vous en poser une dernière. J'ai l'impression quand même que tout est allé très vite. On est en 2023, voilà maintenant à peine deux décennies que les téléphones portables se sont immiscés dans nos vies. Ces téléphones sont devenus des ordinateurs, nous ont donné accès à des réseaux sociaux. Voilà, tout est allé très vite. Est-ce que, alors, il n'y a pas un certain retard à rattraper au niveau des générations? Déjà, est-ce que les parents ont bien été accompagnés dans justement l'utilisation de ces réseaux sociaux? Et ça serait ma première question. Quel est le travail aussi, selon vous, qui serait à faire auprès des familles? Parce que vous vous occupez des élèves. Est-ce que vous pensez que les familles sont suffisamment outillées pour faire face à l'encadrement de ces objets dans les vies des enfants et des jeunes?
Moi, je peux faire un petit commentaire peut-être pour le quartier de l'Argonne, puisqu'il existe depuis quelques années une initiative qui s'appelle le 10 jours sans écran et qui est déployée sur les écoles primaires et qui est plutôt un franc succès. Notre collège y était associé la première année et puis de manière un petit peu plus sporadique après, mais on compte au regard un petit peu des difficultés qu'on rencontre, hein, d'écran, hein, avec tout ce qui a autour, hein, une forme d'addiction de la part de nos élèves. Il nous a semblé important de renouer avec ce projet 10 jours sans écran et de faire du lien aussi avec les écoles primaires. En tout cas, ce que je peux dire, et c'est mon souvenir sur la première édition, c'était qu'on voyait des parents qui étaient quand même avides d'informations, qui ne savaient pas vraiment comment s'y prendre avec leurs enfants. Quelles limites, par exemple? Comment je mets des limites? Et surtout, on a été un petit peu désarmés parfois devant des parents qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place? Donc l'idée de 10 jours sans écran, c'était de proposer à plusieurs reprises, hein, chaque semaine, que ce soit dans les écoles ou le collège, des activités. Retrouver, par exemple, l'intérêt de faire un jeu de société en famille. Et c'était des moments très riches. Les familles étaient très présentes et elles le sont toujours. C'est un peu sous forme compétitive, hein, c'est-à-dire je tiens le défi, en tout cas en primaire, au collège, on a un peu plus de mal à faire vivre ce défi, pour tout vous dire. Hein. Mais en tout cas, les enfants se prennent au jeu. Et quand ils arrivent au collège, ils nous parlent toujours du 10 jours sans écran. Ils nous disent « ici aussi, on le fait ». Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose. Moi, je pense que malgré tout, il y a une demande aussi de la part, de la part des élèves. Et juste pour terminer là-dessus, je voudrais dire, mais peut-être un peu pour faire le lien, c'est que je lisais tout à l'heure, en réfléchissant un petit peu à cette émission, je lisais une étude de Médiamétrie de 2018 qui disait qu'il y avait 71% des jeunes de 15 à 34 ans, c'est-à-dire un peu plus âgés que les nôtres, mais quand même, je pense que ce chiffre est assez éclairant, qui accédaient à l'information par les réseaux sociaux. Mais que parmi ceux-là, 93% s'intéressent à l'information et plus ils ont été formés, sensibilisés à l'éducation, aux médias, à l'information, plus ils s'intéressent à l'information. Et je trouve que c'est intéressant cette donnée parce que ça montre bien que ce travail de terrain quand même qui est mis en place un petit peu partout et on le voit aussi en maternelle et on le voit aussi en primaire et qui finalement aussi se continue, hein, on a bien fait le lien là je pense entre le primaire et le secondaire, il a du sens, il est porteur de sens. Pour moi la question des écrans avec les élèves c'est un petit peu la même chose. Voilà.
Alors peut-être qu'on peut rassurer les parents et puis leur expliquer que ce n'est pas punir votre enfant que de le priver de portable. Bien au contraire, ce sera l'aider. Et qu'il y a tout un travail qui a été fait par le CSA. Pas d'écran avant 6 ans. À la rigueur, un petit dessin animé par semaine. Mais en tout cas, c'est ce que préconise le CSA sur son site jeunepublic.gouv.fr. Monsieur Vanier, concernant les familles, comment selon vous, alors je crois qu'il y a également cette semaine sans écran qui se fait dans le cadre des sorties scolaires.
Oui, exactement. En fait, tous les ans, nos élèves de CM2 partent en classe découverte et on profite en fait de cette classe découverte pour leur faire vivre justement une semaine sans écran. Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours très angoissant pour les jeunes, hein, parce qu'en fait, ils s'imaginent que n'ayant plus d'écran, ils ne vont plus du tout pouvoir s'occuper, s'amuser et organiser leur soirée aussi. Mais non, justement, on retrouve justement cette idée, comme Madame Martin d'ailleurs le disait très bien, de sortir des jeux de société, de pouvoir aussi finalement revenir à des fondamentaux, en fait, tout simplement, hein, de passer une veillée en discutant, en se racontant des histoires autour d'un livre. Donc voilà, et ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup, cette idée d'être sollicité par les familles qui parfois sont très démunies par rapport finalement à cet excès, cette addiction, alors le mot, hein, voilà, peut-être addiction peut être employé pour certains jeunes par rapport aux écrans. Donc ils nous sollicitent, ils nous demandent leur aide, donc ça se passe souvent à travers des dispositifs comme le café des parents, des choses comme ça, sur lesquels on va être amené à réfléchir avec eux sur l'idée de donner des règles. Et ça, c'est quelque chose finalement qui n'est pas si simple que ça. Hein, on s'en rend bien compte et on se rend compte aussi que plus les enfants avancent en âge et plus cela devient difficile pour certaines familles eh bien, d'imposer ces règles-là. Mais ce qui nous inquiète quand même beaucoup au niveau de l'école primaire, c'est la précocité finalement de l'entrée des écrans. Vous le disiez effectivement, les recommandations du CSA par rapport effectivement à cet âge de 6 ans, eh bien, on se rend compte qu'en fait les enfants dès la maternelle sont sollicités par les écrans et parfois à haute dose et ça devient pratiquement finalement leur occupation exclusive. Hein, on n'a plus du tout de livres, on a en fait l'écran et cet écran c'est souvent le téléphone. Et ce qui nous inquiète, et c'est là-dessus justement que je voulais affirmer le propos, c'est qu'en fait cet écran il est sans filtre, c'est-à-dire que le jeune dès l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans se retrouve tout seul devant son écran et il n'est pas en capacité encore hein, de pouvoir filtrer finalement l'information, les images et tout ce que en fait l'écran va lui proposer. Voilà. Donc ça c'est quelque chose pour lequel il faudra être très attentif je pense parce que c'est vraiment, pour le coup, on parlait tout à l'heure hein, de société, de choix de société pour ces élèves-là. Vraiment une inquiétude qu'on peut avoir hein, sur l'avenir.
Alors on peut le répéter hein, voilà, aux parents, c'est très important pour un enfant justement ce développement psychosocial dès sa plus tendre enfance. À être en sécurité, justement, à se sentir en sécurité auprès d'adultes présents pour solliciter son éveil, son imagination, sa créativité, toutes ces choses qu'empêchent les écrans quand les enfants se retrouvent face à eux-mêmes, à leur solitude, leur ennui, à se faire, je ne sais même pas si c'est en tout cas du divertissement, ils n'en ont pas encore conscience. On est dans cette frontière très floue où on croit encore au Père Noël, où le monde de l'imaginaire est en train de se construire et ça peut être très compliqué pour le développement des autres apprentissages hein, des enfants et des jeunes pour plus tard. Monsieur Kervella, concernant voilà, les progrès qui pourraient être faits auprès des familles en dehors du collège.
C'est dès le plus jeune âge, je pense que le rôle du premier degré là, est très important parce qu'en fait, il y a un lien qui est un petit peu perdu avec l'arrivée au collège puisque c'est vrai que nous voyons moins souvent les familles. Et puis, plus on retarde l'âge de confrontation aux écrans, plus c'est du temps de gagner pour effectivement le développement harmonieux de leur cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'au collège, nous, on est en difficulté parfois, parce que même si les parents viennent, souvent c'est dans le cas d'entretien individuel, même si nous avons des actions ponctuelles, c'est vrai que le lien est moins fréquent avec elles. Et puis, par rapport à ce qu'ont dit effectivement mes collègues, et puis il faut qu'on reste dans une position de non-jugement vis-à-vis des familles. Hein, parce que si nous, on va dire « faites comme ci, faites comme ça », je veux dire, on ne fait que braquer les familles, parce que qui sommes-nous pour pouvoir leur faire des leçons. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important que l'école reste aussi dans ce non-jugement-là en direction des familles. Je pense que les familles font comme elles peuvent. Je sais que le poids aussi sociétal est extrêmement important, puisque quand l'élève arrive au collège, le portable est devenu une norme sociale. Ne pas en posséder peut mettre à l'écart certains élèves. Et en tant que parent, si je vois mon enfant en souffrance, je vais tenter effectivement de lui donner quelque chose pour qu'il puisse s'intégrer au sein du groupe. Pareil pour accéder, par exemple, au réseau social de classe. Donc tout ça, ce sont des questions qui traversent les familles, les parents. Elles ne s'en désintéressent pas. Simplement, des fois, elles sont démunies face justement à cette évolution sociétale, à ce poids, et tentent, comme elles le peuvent, d'y apporter une réponse. Et ça, c'est très, très important, que l'école garde cette position de non-jugement vis-à-vis des familles.
Bien sûr. Cette émission touche à sa fin. Je remercie donc M. Vanier, directeur de l'école spécialisée élémentaire René Guicadou à Orléans-la-Source, M. Kervella, principal au collège Montesquieu à Orléans-la-Source, ainsi que Valérie Martin, professeur documentaliste.